13h30 sur France Inter en ce 13 novembre 2017 et toujours et encore Jean Lebrun pour la marche de l'histoire, chaque témoin compte.
Et oui, vous vous souvenez Bruno, c'est une opération raisonnée de collecte de témoignages par une équipe, celle de l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent du CNRS, à laquelle appartient Elisabeth Clavery, qu'on entendra dans la marche de l'histoire. Et le témoin de ce lundi, c'est un jeune rugbyman qui a été blessé grièvement au petit Cambodge, mais qui, dit-il, ne sombre pas.
Les leçons de l'histoire, cela ne saurait être autre chose que la conscience aussi exacte qu'il est possible de ce qui s'est passé durant le passé.
Chaque témoin compte, Aristide Barrault, rugbyman.
Ça a changé ma vie, évidemment. Ça a été Je suis encore en plein dedans, donc c'est difficile d'en parler au passé. Mais je l'accepte. Je l'accepte vraiment. Et par contre, je trouve encore l'intrusion journalistique dérangeante. Et pour en parler avec beaucoup de mes amis et d'autres victimes que j'ai rencontrées, c'est difficile. Ouais. C'est tellement... c'est difficile aussi de parler de positif dans cette histoire pour moi, parce que c'est vrai que moi j'arrive et j'essaye de trouver du positif dans cette histoire, dans le fait d'être en vie tout simplement. Mais de parler de ça alors que des gens ont perdu leur femme, leur mari, des enfants, ont perdu des membres, des jambes, sont dans des fauteuils roulants, ça c'est extrêmement difficile. Je ne peux pas me permettre de blesser des gens. Je veux pas ça. L'intégrité morale et physique des autres personnes blessées et des gens qui sont morts, elle est trop importante. C'est un sujet trop délicat. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous parler à vous. Le côté universitaire, etc., me rassure.
J'ai choisi de vous parler à vous. Aristide Barrault manifeste la plus grande retenue devant l'intrusion journalistique, la plus grande colère devant des invitations intéressées du genre « Vous voulez pas venir parler en principauté de Monaco du rôle du sport contre la radicalisation ?» Il a écrit lui-même un récit qui paraît au seuil, mais ne sombre pas, et il a accepté, Elisabeth Clavery, de parler devant l'équipe de l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent, parce que sa présence est juste.
Oui, ce n'est pas moi qui ai réalisé cet entretien, mais dans notre équipe, dans l'équipe rassemblée par Christian Delage, on a essayé de réfléchir beaucoup à ce que c'est que de parler avec l'ensemble des personnes impactées directement ou non par les événements du 13 novembre. Et donc, on a essayé de réfléchir au type de distance qu'il fallait qu'on entretienne avec ces personnes, avec leurs récits, et à la façon de leur présenter notre projet, qui est à la fois, donc comme vient de le dire Jean Lebrun, de collecte, mais aussi d'insistance sur ce qu'est un témoignage d'une personne qui a assisté à des événements et qui doit trouver une façon de le dire et d'essayer de garantir à cette personne ce qui sera fait de son témoignage.
Alors, Aristide Barrault a accepté que France Inter reproduise pour partie cet entretien mené par l'IHTP, qui n'est pas un entretien seulement radiophonique. C'est filmé, la caméra n'étant pas nécessairement un obstacle, mais pouvant permettre une protection en même temps qu'une médiation.
Oui, Christian Delage a une grande expérience de réflexion sur la caméra, l'utilisation, l'usage de la caméra dans ces situations, à cause de ce qu'elle offre, à ceux qui regarderont le film et de ce qu'elle offre à celui qui s'exprime. Pour celui qui s'exprime, effectivement, la caméra introduit immédiatement une distance. Je me suis rendu compte en faisant les entretiens, par exemple, que les gens ne me regardaient pas. Très vite, ils regardaient au-delà. Et c'est très, très intéressant comme perception pour pouvoir s'évader des questions qui leur sont posées. Et quant aux gens qui regardent, ils voient s'exprimer tout le langage du corps, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur le visage de la personne à travers son récit, tout ce qui se passe avec son corps. Et il y a là quelque chose d'incroyablement fort, puissant, qui vient attester et prouver ce qui a été dit de la façon dont c'est dit.
Mais vous savez, la radio prive d'un sens pour permettre que s'exercent mieux les autres. Alors, la parole, longuement, seulement à la radio, sans l'image, à Aristide Barrault. Dans son livre « Ne pas rompre au seuil », il dit, ses copains l'appellent Harry, qu'il est un mecton de la banlieue sud de Paris, que la banlieue, c'est la France à la dure, et par sa famille, en effet, il appartient à l'espèce des laborieux qui luttent et ne lâchent rien. Il a 28 ans, derrière lui 7 ans comme joueur de rugby professionnel. Je courais pour gagner ma vie et au petit Cambodge j'ai pris des balles dans la cheville, la cuisse, le poumon, alors que les seules balles que j'avais tirées, c'était des ballons ronds entre les poteaux comme demi d'ouverture. Parce qu'avant le rugby professionnel, il y a eu 10 ans de préparation, je courais après mon rêve.
Dès mes 12 ans, j'ai su que je voulais être joueur de rugby professionnel. Et il y avait une voie qui était royale, c'était d'entrer en Pôle Espoir. Et c'est une sorte de centre de formation dans les lycées, géré par la Fédération Française de Rugby. Il y en a 9 en France, et celui d'Île-de-France, c'est le lycée La Canale à Sceaux. Et j'ai réussi à atteindre cet objectif. C'était le premier, peut-être un des plus durs, parce que c'est très très élitiste au niveau scolaire et rugby. J'ai passé mes 3 années de lycée là-bas, 2 années en internat. C'était très dur, très dur. Beaucoup d'entraînement, très jeune. Et puis les sacrifices, ils ont vraiment commencé là. Donc jamais de soirée, les week-ends, c'était travail et rugby. Le soir, c'était entraînement. Il y avait très très peu de temps libre en fait. Et j'ai beaucoup progressé. Ça m'a permis d'atteindre les équipes de France jeunes, moins de 18, moins de 19 et moins de 20 ans par la suite. Et ensuite d'intégrer l'équipe professionnelle du Stade français, le groupe professionnel, donc pendant 4 ans. Et ensuite, je suis retourné dans mon club de formation, Massy, en banlieue sud parisienne, et où j'ai joué en Pro D2, en deuxième division, qui est un niveau très très important, un gros niveau professionnel. Et ensuite, après ça, j'ai décidé de m'exiler en Italie, où je joue depuis 3 ans.
Le 13 novembre, Harry est de passage en France, venu donc de son club italien. Il retrouve sa sœur, qu'il n'a pas vue depuis un moment. Sa sœur est acrobate. Ils sont 5 ce soir-là dans le 10e arrondissement de Paris. Ils sont d'ailleurs toujours 5.
J'ai entendu 3 tirs, alors qu'on était en train justement de s'en aller. Et j'ai vraiment cru à des pétards. J'étais sûr que c'était des pétards et j'ai tourné la tête pour regarder. Et j'ai vu donc cette voiture qui était entre le Carillon et le Petit Cambodge dans la rue Bichat. Et j'ai vu un mec sortir et tout était normal. Hein. Il était vêtu normalement, il avait globalement mon âge, ma taille. C'était monsieur tout le monde. Sauf qu'il avait une Kalachnikov dans la main. Et ça, c'est vraiment un détail qui m'a fait tilt en fait. Et là, je me suis dit « danger ». Et voilà, il a regardé dans ma direction, il a mis la Kalachnikov à l'épaule et il a commencé à tirer. Moi, j'ai eu le temps de prendre ma sœur, d'attraper ma sœur qui était juste à côté de moi et de la mettre dans mon dos. Voilà, de la mettre derrière moi et ça a été instinctif en fait. Et puis ensuite, on était par terre et on avait pris les premières balles. Moi, j'avais pris celle qui a une balle dans la poitrine. Et ça a été instinctif, ça a été un réflexe comme sur un terrain. Mon rôle, c'est d'analyser les situations et d'agir en conséquence sur un terrain. Et là, j'ai l'impression d'avoir fait exactement la même chose dans une situation d'urgence, comme sur un terrain, évidemment mortel et dramatique. Mais je sais que ces heures, ces milliers d'heures d'entraînement a entraîné mes réflexes, ma vision périphérique, ma vision tout court, savoir réagir dans un temps rapide à une situation difficile m'a permis peut-être d'avoir ce bon réflexe. Si j'étais resté immobile, on serait mort. On serait mort, c'est quasiment une certitude. Donc, dans ce cas précis, oui, le rugby m'a sauvé la vie. c'était un enfer, quoi, un cauchemar. On était dans un cauchemar, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Et ça a duré quelques secondes. Et là, il y a voilà, une voix qui a dit « Je m'appelle Serge, je suis docteur. » Et ma sœur l'a appelé tout de suite. En criant, il est venu, il m'a dit « Je m'appelle Serge, je suis docteur, qu'est-ce que t'as ?» Et j'ai regardé comme ça, je voyais vraiment mal. Je voyais déjà tout trouble. C'était peut-être 30 secondes après que les tireurs soient partis. Et je l'ai reconnu, en fait. C'est une figure importante du rugby français, Serge Simon. Il a été président de Proval, le syndicat des joueurs professionnels. C'est un ancien grand joueur, un grand pilier, qui a été jusqu'en équipe de France. Il est le représentant d'une certaine époque du rugby. Et puis, au-delà de ça, c'est un docteur, ce qui est assez original dans le rugby de haut niveau. Et puis, il a écrit des livres. Et puis, c'est quelqu'un qui a une gouaille, qui a une intelligence et qui a toujours pris position, qui tient des émissions de radio. Voilà. Donc, je le connaissais comme ça. Mais je lui ai dit, mais vous êtes Serge Simon. Il a dit, ouais. Et encore maintenant, quand j'y repense à tout ça, c'est un peu c'est fou. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de le voir, sincèrement. Alors que j'étais quasiment mort par terre et qu'il y avait des gens en train de mourir partout, je sais pas, ça m'a fait plaisir et ça m'a donné une grande confiance de le voir. C'est tout de suite, ça a fait tilt. Je me suis dit, ben oui, il est docteur. Et je me suis dit, c'est bon, je suis entre de bonnes mains. Et je lui ai dit, je m'appelle Aristide, je suis rugbyman. Et je joue en Italie, je lui ai dit, je suis rugbyman en Italie. Et lui, dans ce moment de voilà, bizarre, il a associé à cette phrase à... En fait, il est italien. Il pensait que j'étais italien. Alors qu'on a parlé français, que j'étais avec des amis français, etc. Et il s'est occupé de moi. Ouais, il s'est occupé de moi. Il m'a tout de suite demandé où j'avais pris les balles, où est-ce que j'avais mal. Et je lui ai dit. Et il a su me mettre dans la bonne position, barrer les plaies, en quelque sorte. Je perdais tout mon sang, donc il a su mettre il a la chemise de mon ami au bon endroit. Sans lui, on n'aurait pas eu ces réflexes-là. Sans lui, j'aurais moins tenu, je sais pas. C'est sûr qu'il a participé à ça. Lui, ma sœur, qui me tenait en vie moralement, et ma meilleure amie Aïda, et mon ami Bastien, voilà, qui était là, qui me tenait, quoi, physiquement et moralement. Je sais pas si j'aurais tenu sans eux. Et ensuite, il y a un moment où j'ai vraiment senti que c'était vraiment fini. J'arrivais vraiment à la limite, à la toute fin, et je lui ai dit à Serge que c'était fini, quoi. Que c'était maintenant ou jamais, qu'il fallait faire quelque chose. J'avais extrêmement froid, je voyais plus rien. J'avais voilà, un voile blanc devant mes yeux et j'étais quasiment dans une espèce d'état de folie bizarre. Et il m'a attrapé, il y a un brancard qui est passé à côté. Il a attrapé le brancard, il m'a mis dessus. Et il m'a porté jusqu'à une ambulance et il a dit au mec, on s'en va maintenant. Et il lui a mis vraiment une pression telle qu'on est parti. Et il m'a amené aux urgences. Et là, c'était comme dans un film. Comme la série Urgence, quoi. Les brancards qui arrivent avec les médecins qui courent autour. Et lui, il a su dire les mots justes. Il a dit blessé par balle, suspection poumon, grosse perte de sang, blessure à la cheville. Il a dit les mots justes. Donc ça peut-être dit. À ce moment-là, c'était d'une seconde, j'allais mourir d'une seconde à l'autre. Donc ils ont su me mettre aussi les perfusions tout de suite, ce qui m'a vraiment sauvé, je pense. Voilà.
Bastien, Serge, Aïda, il faut citer aussi Laure. Les noms que nous mettons en avant sont ceux qu'Aristide Barrault met en avant, de même que les musiques que nous citons. D'abord, ce fut l'hôpital Saint-Louis, la première de 6 opérations. S'il faut citer le nom de 2 médecins, Célia Boultrop, Pierre Mordant, qui prennent le risque de préserver le poumon dans cette opération. C'est un sportif de haut niveau, il faut lui garder ses chances.
Et la réanimation, c'était vraiment très dur, très très dur. Une semaine de réanimation, ça m'a vraiment marqué à vie, je pense. Malgré le personnel extraordinaire, vraiment extraordinaire. Du début à la fin, du moment où je suis arrivé à l'hôpital jusqu'à là, les dernières opérations que j'ai subies, le personnel médical et surtout en réanimation à Saint-Louis, réanimation thoracique à Saint-Louis, du professeur Jacob, du service du professeur Jacob, les infirmières, les aides-soignantes. C'était des gens qui ont veillé sur moi et qui ont tout fait pour moi, c'était extraordinaire. Qui m'ont ramené à la vie, en fait, un peu tous les jours. Avec des choses simples, même un shampoing, par exemple. Je me rappelle, j'ai ce souvenir de cette... Un jour où j'étais vraiment très mal, je crois que c'était le lundi, de trois jours après, où j'étais vraiment très 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 mal. Et c'était le matin, donc même moralement. Et cette aide-soignante qui est venue me voir et qui a vu que j'étais pas bien, on a parlé un petit peu. Et elle m'a dit, vous savez quoi, je vais vous faire un shampoing. Je dis non, ça sert à rien. Surtout, j'étais allongé, je pouvais pas, même pas bouger la tête, je pouvais rien bouger. Mais elle s'est organisée, avec d'autres aides-soignantes, elles ont tout organisé pour me faire un shampoing. Et là, je crois que c'est le moment vraiment où je suis revenu à ma vie. Je suis revenu à la vie au moment de ce shampoing, je sais pas, c'est très bizarre. Ces sensations, la chaleur, les mains sur moi, sur ma tête, c'était. Donc voilà, des petites choses comme ça. Et malgré tout, c'est une expérience très, très traumatisante. Ensuite, j'ai été transféré à Bichat, dans un service, disons, normal, thoracique. Et le transfert aussi, c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte à quel point ça avait été grave, ce que je vivais. Parce qu'on m'avait dit, vous allez être transféré, vous allez sortir de réanimation. Et moi, je me voyais prendre le taxi, en fait. Je me suis dit, ah, c'est très bien. Alors, je pouvais même pas bouger, mais j'étais tellement à côté de la plaque que je me suis dit, ah, bah, ils vont faire venir un taxi, je vais prendre le taxi avec... ça va être cool, je vais voir Paris, je vais revoir... Et en fait, j'ai vu deux équipes du SAMU arriver. Et j'avais encore quatre drains dans le corps, en fait, qui sortaient des poumons, etc. Et moi, je pouvais pas du tout bouger. Ils m'ont mitouflé dans deux brancards. Et puis là, ça a été à fond, avec les sirènes, avec une voiture ouvreuse. Et moi, j'étais dans la deuxième jusqu'à Bichat. Et je me rappelle que je regardais par la fenêtre et je voyais la ligne 2 aérienne de Paris. On a suivi cette... J'étais heureux de pouvoir voir Paris. Et il faisait gris, il pleuvait. Mais là, je me suis dit, ah oui, d'accord. C'était pas rien. C'était chaud. C'était chaud. Mais le moment où j'ai ressenti le vent et des gouttes de pluie sur mon visage, au moment du transfert, ça aussi, c'est un moment de retour à la vie très important. Là, quand j'ai reçu des gouttes sur mon visage, ouais, c'était 3 gouttes d'eau, j'ai dû recevoir. Ça a été un moment hyper intense. Je sais pas. Un moment hyper intense de sensibilité déjà, c'est de l'eau sur ma peau, le froid après une semaine, plus d'une semaine en réanimation, et puis de voir des bâtiments, de voir des gens dans la rue, c'était fort. Bah, c'est mes premiers souvenirs après les attentats.
Et quand on annonce à Harry que son séjour au service thoracique durera plusieurs mois, il décide d'entamer sa résurrection autrement, le plus vite possible, ailleurs, chez ses parents. Et avec l'aide experte de ses copains, il se lève clandestinement, sur sa seule jambe valide, malgré les drains. Une fois les drains enlevés, il apparaît debout sur ses béquilles, et on le laisse partir au bout de 12 jours. Il aura tout de même l'occasion de retrouver Bichat et d'autres consultations, à l'occasion donc de ses innombrables rendez-vous. 2 à 3 fois par semaine pendant des mois et des mois.
C'est marrant qu'on soit là parce que Bichat, c'est juste là derrière. J'ai vu mon chirurgien qui m'a opéré du pied et de la cheville, etc. C'était juste là, à Brochamps. Et au début, donc les premiers mois, je venais en voiture, évidemment, j'étais en fauteuil roulant et tout. Et on passait, donc voilà, ce bâtiment-là, le grand bâtiment, le futur palais de justice des Batignolles, j'ai vu toute sa construction, son évolution en un an. Donc il est un peu le témoin de mon évolution. En fait, on a évolué ensemble. Il s'est construit en même temps que je me reconstruisais. Donc voilà, je sais que toute ma vie, ça me fera bizarre de voir ce bâtiment. Ça me rappellera cette période de reconstruction intense un peu. Ouais, où je retournais, j'étais beaucoup sur un fauteuil roulant, puis avec deux béquilles, puis une, puis j'ai remarché, et là où j'ai été réopéré. Puis de ma chambre à Bichat, j'avais vu sur ce bâtiment en plus.
J J'ai pas toujours été grand et fort et tout. Lorsque le doute plane, quelques mots, une écoute et tout repart. Y'a que la mort qui n'a pas d'amis sincères. Vaut mieux changer avant de se demander à quoi ça sert. Et j'ai dû apprendre à pardonner, vu le peu qui m'a tant donné. Quand l'abandon te pend au nez, passe les années comme au café, une vie de cap et d'épée. Tellement enterré, j'ai même pas 30 tendresse. J'écris à mes potes sans qu'ils soient en zonzon. Tu sais, le temps presse. Aigri à mon âge, Jack, le ciel est gris. Le choix est simple, se ressaisir ou moisir. Je rappe pour le plaisir et l'occasion est bonne à ceux qui savent ce que c'est avoir des potes.
Oxmo Puccino, un jour dit Harry, je lui raconterai, ainsi qu'aux autres musiciens que j'ai écoutés à longueur de jour, à quel point ils m'ont aidé. Alors les potes, incroyable les potes d'Harry, un jour ils organisent une fête de la vie, le soir ils partent du domicile des parents pour des virées invraisemblables à Paris, on va continuer à faire des trucs qu'on pourra se raconter plus tard, sinon ça ne sert à rien de rester en vie. Les copains qui apportent de la légèreté. Et puis, il y a les parents. Et puis, les grands-mères. Alors, il y a une grand-mère qui raconte l'histoire de l'arrière-grand-père qui a été blessé pendant la Grande Guerre, qui a été laissé pour mort. On lui a dit, vous ne pourrez plus jamais bouger un membre ni parler. Le grand-père s'est levé. Bon, à la fin de sa vie, il a retrouvé un fauteuil roulant. Mais ce fauteuil roulant lui a permis de faire de la résistance plus aisément que s'il n'avait pas été invalide de guerre. Nous sommes dans une famille de durs à cuire. L'autre grand-mère.
Ma grand-mère, elle a écrit ses mémoires, en fait, en 2007, d'elle-même. Elle m'a raconté qu'un jour, elle s'est levée comme ça et qu'elle a pris un crayon. Elle avait toujours eu ça en tête. Et elle a écrit ses mémoires. Et c'est sorti tout seul en quelques mois. Elle a tout écrit. C'est une femme extrêmement libre qui a vécu la vie ouvrière parisienne et de banlieue parisienne. Qui a vécu dans les HLM du Plessis Robinson, qui avait été créé justement pour les ouvriers automobiles parisiens. Donc c'est vraiment... cette histoire me permettait de toucher du doigt cette vie ouvrière qui me passionne depuis toujours, même avant mes études d'histoire. C'était l'histoire ouvrière parisienne, et en même temps c'est l'histoire de ma grand-mère, donc mon histoire aussi. Et je suis en train de finir un documentaire. J'ai commencé en 2011, donc ça commence à faire un peu. Mais je fais tout seul, tout moi-même, du début à la fin. Donc ça prend du temps. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu d'autres priorités que ça. Donc j'espère finir bientôt.
Est-ce que j'ai dit qu'il avait fait une licence d'histoire, Harry, et puis une licence de cinéma préparant sa reconversion qui est venue un peu plus vite que prévu. Il est revenu dans son équipe. Dans les tribunes, la salle de muscu, je voulais aller au bout de la route. Je pensais qu'elle s'achèverait sur un terrain. Elle m'a mené à une autre vie.
Le rugby, ma condition de sportif professionnel de haut niveau, m'a tenu en vie sur le moment, physiquement, grâce à ma capacité à encaisser des chocs et encaisser des blessures. La capacité mentale aussi, qui est mise à rude épreuve tous les jours dans cette vie de sportif de haut niveau. Elle m'a permis de tenir sur le moment et tenir maintenant aussi, dans toutes ces épreuves, dans ces opérations à répétition, dans ces moments, ces matins difficiles, les nuits sans sommeil, dans les cauchemars, dans toutes ces opportunités ratées, cette vie qui a dû changer. Et en même temps, le rugby m'a permis de garder un cap. Le cap, je l'ai choisi moi, malgré l'avis de beaucoup de médecins, c'était de rejouer. Et ça a été un objectif. J'ai jamais été un peu dans le vague, dans des abîmes où je ne savais pas quoi faire. Au moins, j'avais cet objectif qui m'a tenu la tête hors de l'eau, hors de la dépression, de la souffrance, des souvenirs, des images, des idées noires. J'en ai évidemment tout le temps. Tout est là. Mais cet objectif me permet de garder la tête hors de ça. Et je crois que c'est vraiment un plus. Je ne me permets pas de donner de leçons ni de me nommer exemple ou héros. On me l'a dit, je trouve ça tellement ridicule. C'est la chose la plus ridicule qu'on puisse dire. Mais en revanche, si, parce que je fais moi, en me concentrant ma volonté de retour au rugby, je peux donner un peu d'espoir, on va dire, et de force. Alors vraiment, j'en suis très très heureux, très heureux.
Et même sans recommencer à jouer, je vais faire de mon mieux. Le rugby apprend à devenir un meilleur joueur et surtout une meilleure personne. Le récit d'Aristide Barrault est publié aux éditions du Seuil, mais ne sombre pas. Son témoignage a été recueilli par l'équipe de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, à laquelle participe Elisabeth Clavery, ici présente. Alors on ne fait pas de commentaires sur un récit. Par contre, les membres de l'équipe continuent à correspondre avec les gens qui ont témoigné. Il y a une quinzaine de grands témoignages comme celui-ci qui déjà ont été recueillis.
Oui, on essaye. D'abord, notre but, c'est de permettre aux gens de vraiment développer, déployer leurs témoignages et que soient restituées toutes sortes de facettes de leur expérience. Et ensuite, on essaie de mettre en place une suite, c'est-à-dire de parler non pas seulement avec les personnes qui ont été touchées, mais aussi et on comprend bien l'importance que ça peut avoir quand on entend ce témoignage, leur environnement, c'est-à-dire des médecins, les amis, la famille. On essaie de travailler avec l'ensemble des personnes touchées au sein d'une famille, par exemple, mais aussi les membres de cette famille. Et on a essayé de beaucoup travailler sur les urgentistes, sur les médecins, sur les gens qui ont entouré, et la façon dont ils le disent, non seulement parce qu'ils ont entouré ces personnes, parce qu'ils sont intervenus à tel ou tel moment, ont fait tel ou tel acte, mais aussi la façon dont eux-mêmes ont été touchés et le disent avec les mots qu'ils choisissent pour le faire, l'épreuve qu'a été pour eux leur intervention et l'impact psychologique aussi que ça a pu avoir sur eux. Donc, il est très important pour nous de donner une suite à chacun de ces témoignages en revoyant les gens, en peut-être parlant avec eux un peu plus tard, et en insistant beaucoup sur leur environnement, qu'il soit familial, amical ou professionnel.
Le questionnaire est ouvert. Il n'y a pas de question du genre « est-ce que vous avez été violée et que vous parlez anglais ?»
Non, cherche personne à parler anglais. Non, non.
Et l'expérience est longue.
L'expérience est longue. On voudrait la maintenir sur le long terme.
Merci à vous et à l'IHTP, Aristide Barrault, qui a bien voulu que son témoignage destiné à cette équipe du CNRS retrouve aujourd'hui les auditeurs de France Inter. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, réalisée par Valérie Aestaraï, avec à la technique Nicolas Delmas. Bon, nous sommes dans un sujet moins grave, peut-être avec vous dans un instant, Mathieu Vidard.
Oui, ce sont les petits tracas du quotidien, les petits tracas du cerveau, entre autres, avec les chatouilles, les éternuements, les fous rires. On va parler de tout ça.
Merci à vous.